Règle avait fait, après une très longue introduction, je n'ai plus rien à rajouter. Mais comme vous m'avez demandé, vous apportez la parole ce matin, je veux être obéissant. En fait, ce que j'ai voulu vous dire, ou ce que je vais vous dire ce matin, je l'avais prévu très exactement le 6 décembre 2020. Mais c'était en plein Covid et le culte n'a pas eu lieu. Mais vous allez voir que vous n'avez rien perdu pour attendre. Même si j'ai repris ce message et je l'ai pas mal remanié depuis. En tout cas, surtout la semaine dernière. Je vais vous dire que j'ai pensé bien sûr à la rentrée, bien que la rentrée, nous, personnellement, ça ne nous change pas beaucoup. Mais ça, c'est le problème des retraités, ils n'ont même plus de vacances. Et du coup, la rentrée pour nous, c'est une continuation simplement de ce que nous avons vécu déjà toute l'année, ou même pendant l'été. Vous avez vu dans les rapports du tremplin que... On n'a pas dit peut-être, mais on a été participants aussi, puisque ma femme est tellement demandée toujours et encore pour faire la cuisine et que je l'aide comme je peux là-dedans. Mais pour la plupart parmi vous, c'est fini la chaise longue sous un palmier à la mer, avec une mer à 25 degrés, ou encore des randonnées dans notre beau pays, ou encore l'évasion au loin vers des horizons nouveaux. C'est la rentrée. Et la vie, est-ce que c'est la vie normale que nous retrouvons? Avec ses craintes, ses appréhensions, qu'est-ce que ça va nous apporter? Et l'homme a toujours été préoccupé par l'avenir et il a parfois cherché au mauvais endroit. Mais le prophète Ésaïe a bien résumé l'attente du croyant. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Pour nous avertir, effectivement, notre attente, c'est dans la parole de Dieu. Et nous faisons bien de faire attention, de nous baser notre réflexion et nos projets sur la parole. Je vais donc vous parler brièvement d'un stagiaire dans la Bible, un homme qui était en formation. Et dans une certaine mesure, ça nous concerne tous, bien sûr. Je vais vous donner juste 4 indications pour vous faire devenir le personnage, qui n'est peut-être pas le plus connu. Donc, il était stagiaire auprès d'un grand prophète. 2, il a montré certaines capacités, mais a aussi commis des ratés. 3, il rate le test ultime et se trouve disqualifié pour le service. Et 4, la grâce le rattrape quelque peu. Je vais vous donner la suite si vous voulez bien. Oui. Vous avez trouvé. Oui. Voilà. Donc, je vais vous parler de l'apprenti Géasi. Cinq étapes de vie dans la vie d'un chrétien au service de son maître. À l'exemple donc du serviteur du prophète remarquable qu'était Élisée. Son histoire se trouve dans le 2e livre des Rois, dans les chapitres 4 et 5, et encore dans le chapitre 8. Voilà donc ce qu'on peut dire en introduction de cet homme. Il est dans l'école du prophète Élisée. Et comme j'ai écrit, le chrétien est appelé à avancer dans sa vie et dans sa ressemblance toujours plus proche de Jésus. Il ne va pas dépasser le maître, ce n'est pas possible, mais il peut ressembler de plus en plus à son maître et seigneur. J'ai donc retenu 5 étapes dans la vie du serviteur. La première étape, c'est un serviteur, c'est obéir. Au chapitre 4, au verset, donc toujours de 2 Rois 4, au verset 12, nous lisons le prophète appelle Géasi et il accourt. Au verset 13, encore, dis-lui, mets ta ceinture et il part. Cela n'empêche pas qu'il a eu, ce jeune serviteur a eu droit à s'exprimer et il a eu des bonnes idées. Quand il rencontre cette femme qui a ce couple aisé qui ont logé Élisée de nombreuses fois, un jour Élisée lui dit à Géasi, fais venir cette femme, et il l'amène et il lui demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu nous montres tant de bonté chaque fois que nous passons ici, tu nous loges, tu nous fais du bien. Est-ce qu'on peut parler pour toi au roi? Est-ce que je peux parler pour toi au général de l'armée? Et la femme répond, je suis au milieu de mon peuple. Et c'est Géasi qui lui souffle, mais cette femme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Alors Élisée lui dit à nouveau, fais-la venir. Elle vient et il lui annonce, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas embrasser un fils. Donc le discours d'Élisée est fait d'impératif. Et la leçon semble bien comprise. Au verset 15, nous lisons, il fait ce qu'on lui demande. Et cette femme devient effectivement enceinte et elle enfante un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Donc, il sait obéir. On dit quelquefois, la façon d'obéir ou la manière d'obéir montre la capacité de ce que c'est de l'obéissance. On peut obéir de différentes façons. On peut le faire par simple obligation. On peut le faire par crainte ou même par révolte. Mais la qualité de la manière d'obéir fait la différence. Dans mon expérience, j'ai remarqué à plusieurs reprises que celui ou celle qui n'était pas capable d'obéir quand ils ou elles sont devenus responsables, ils ont mal exercé leur responsabilité, souvent de façon despotique. Donc, il faut avoir appris à se soumettre pour pouvoir être responsable. Même nos hommes politiques feraient parfois de bien d'apprendre cette leçon, ou d'avoir appris cette leçon. Le refus de l'autorité humaine cache quelquefois le refus de celle de Dieu. Donc cette leçon me semble élémentaire. Et j'ai presque envie de vous poser la question, savez-vous toujours obéir? C'est Corneille qui disait que l'obéissance est un métier bien rude. Et peut-être que vous avez déjà fait l'expérience. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que le serviteur apprend le discernement. Là, au verset 14, Géasi a bien discerné. Mais le problème qui va surgir, c'est que quelques années plus tard, on ne sait pas quel âge avait le petit garçon quand il tombe malade et qu'il va mourir. L'épreuve imprévue, l'apprentissage sur le tas. Et là, quand la femme vient voir le prophète tout de suite à la mort de son fils, Géasi ne comprend pas. Au verset 27, nous lisons « Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approche pour la repousser. » Il n'avait pas compris. Alors, il apprend une leçon importante. D'abord, il repousse la femme qui vient chercher de l'aide. Pourquoi? Il ne comprend pas. Et il le repousse. Mais ce n'est pas une manière de faire ce que tu fais là. La Bible dit, les adultes, quant à eux, prennent la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Dans Hébreux 5. Salomon priait, veuille donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Et Paul a écrit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde et qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important. Donc, nous lisons là que Élisée interroge et Géasi, il rate en quelque sorte. Mais ce n'est pas grave. Tous les hommes de Dieu ont connu des échecs. Et ceux qui ont fait les plus grandes choses ont parfois connu des échecs importants. Pensez à Moïse, il a commencé par être un meurtrier avant d'être appelé par Dieu bien des années plus tard. Ou même Pierre qui renie son Seigneur avant d'être appelé à un ministère extrêmement utile et fécond. Se rappeler donc qu'en dehors de Christ, il ne saurait y avoir une vraie sagesse et qu'en lui est réunie toute la sagesse de l'univers, d'après Colossiens 2. Paul dira, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée » dans 1 Corinthiens 2. Il s'agit donc de notre dépendance du Seigneur. De notre dépendance du Seigneur en toutes choses. Notre sagesse doit être en quelque sorte surnaturelle en venant de Dieu. J'ai ensuite marqué que un serviteur, il grandit dans la foi. Le prophète, quand il apprend la mort de ce garçon qu'il avait annoncé à la dame, va dire à son serviteur, pars, prends le bâton, mon bâton, et tu vas le mettre sur l'enfant qui est décédé. Et Géasi obéit, il fait ce qu'on lui a demandé, mais il n'y a pas de résultat. Mais c'est vrai que la foi grandit quand elle est mise en action. Elle ne réduira jamais à une formule ou à une méthode ou à un système. Hébreux 11 définit la foi en disant « Elle est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, Géasi assiste à cette mise en doute douloureuse de sa foi. Il avait pensé que dans ces circonstances dramatiques, le Seigneur va se servir de lui pour faire le miracle. Il voit la démarche désespérée de la femme qui frappe pourtant à la bonne porte. Il ne comprend pas, mais il va profiter d'un enseignement étrange. Le maître Élisée le rend attentif à un chagrin de cœur qui ne se voyait pas forcément. Et le maître lui-même, le prophète, avoue qu'il n'a pas discerné la cause. Mais le maître va aussi annoncer la foi à la résurrection, la prière exaucée. Et le maître lui confie une mise en œuvre de sa foi, en quelque sorte un stage pratique. Géasi, pourtant, il obéit, mais c'est raté, il ne se passe rien. Et peut-être qu'une leçon qu'il devait apprendre, je ne l'ai pas marqué, c'est que la foi n'est pas magique. Ce n'est pas le bâton ou le geste qui font la différence. Ce dont il a besoin, c'est de dépasser sa foi d'adoption en une foi personnelle. Apprendre la différence entre un acte magique et un acte de foi. Il n'y a pas de foi de substitution. Je ne peux pas croire pour quelqu'un, mais je peux l'encourager à mettre sa foi en œuvre. Rien ne peut remplacer notre propre engagement. Donc Géasi ne devait pas mettre sa foi dans le prophète, mais en Dieu. Donc, la suite de cette période de mise en réalité sa foi est en quelque sorte ratée. Rappelez-vous l'histoire quand Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, son serviteur est guéri. Et la question se pose à chacun de nous, quand avons-nous pour la dernière fois pris Dieu au mot concernant une promesse, une affirmation biblique, un ordre, un encouragement? Quand nos expériences, même négatives, deviennent des leçons, on a envie de critiquer Géasi, écoute, tu n'as rien compris, mais je ne sais pas, il faut peut-être que tu te mettes en tête que c'est de toi que le Seigneur attend une réponse et un engagement de foi. Mais le Seigneur est aussi capable de nous garder, même là où d'autres peut-être n'y croient pas. Mais je vais aller très vite pour parler quand le serviteur arrive à l'heure de l'examen. Là, c'est le chapitre 5 qui va nous le raconter. C'est la fameuse histoire de Naaman, que vous connaissez bien, ce fameux général syrien qui a un défaut caché, mais terrible, il a la lèpre. Et vous vous souvenez peut-être que lors d'une invasion en Israël, les Syriens avaient ramené une jeune fille, une petite fille, peut-être même toute jeune, d'Israël, et qui était au service de la femme de ce général. Et quand elle a appris la lèpre de ce grand général qui était en honneur en Israël parce qu'il avait remporté des victoires, elle dit à sa maîtresse, « Oh, si seulement le monsieur irait à Samarie auprès du prophète, il le guérirait de sa lèpre. » Et le général va dire ça à son roi, qui lui dit, « Mais vas-y, prends des cadeaux avec, et je t'écris une lettre pour le roi en Israël. » Et c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, quand le roi en Israël a reçu la lettre, il était furieux, il s'est dit, « Est-ce que je suis Dieu pour guérir quelqu'un ?» Mais le prophète va lui faire dire, « Ne t'en fais pas, envoie cet homme chez moi. » Donc, le général va apprendre la supériorité de Dieu sur les rois, sur la matière. Il réalise que la guérison exige une soumission. Cet homme, moi j'ai toujours voulu être peintre pour peindre des scènes bibliques, mais j'en suis malheureusement pas capable. Mais je vois cet homme, il est là-haut sur son cheval, entouré de ses serviteurs, de biens matériels, un homme important aux yeux du monde. Et il arrive devant la maison du prophète, et le prophète n'est pas là. Ah oui, il est dans la maison, mais il ne vient même pas sortir. Oh là, quel manque de respect, c'est pas possible. Alors que tout le monde se mettait à genoux devant lui, et cet homme ne sort même pas de sa maison pour l'accueillir. Il envoie un serviteur pour lui dire, « Va te plonger dans le Jourdain cette fois, et tu seras guéri. » Alors il n'y est pas, le général, il est furieux, et va retourner chez lui, dans la colère, s'il n'y avait pas eu, heureusement, parmi ses serviteurs, des hommes sages qui lui disent, « Mais écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de très compliqué, tu l'aurais fait. Mais pourquoi pas faire ce qu'il demande ?» Et il accepte finalement de descendre de son cheval. Et c'est assez symptomatique. Il ne pouvait pas rester sur son cheval pour voir le prophète en face de lui. Il devait descendre de son cheval, c'est-à-dire s'humilier. Et quand il le fait, finalement, il est guéri. Mais le serviteur va là révéler un problème qui était certainement en lui et qui l'a peut-être empêché jusqu'à présent d'être un vrai serviteur ou un vrai disciple qui va ressembler à son maître. Il se fait avoir par sa convoitise. Parce que le général veut payer. Il veut payer sa guérison. Il a apporté plein de cadeaux. Et étonné, le prophète dit, « Je ne prendrai rien. » L'évangile ne se vend pas. On ne peut pas payer une grâce. On ne peut l'accepter que par la foi. Et là, le serviteur n'y est plus. Il se dit, mon maître laisse repartir cet homme important avec ses biens et avec tout ce qu'il voulait nous offrir. Ça ne se passera pas comme ça. Et il lui court après et avec un mensonge, une tromperie, lui demande des biens, des vêtements, des biens que le général est très content de lui donner. Mais quand il revient, le prophète a deviné ce qui se passe. Et le serviteur se retrouve avec la lèpre du général. Donc, Élisée l'a chargé de responsabilité. Et là, c'est la chute. Géasi est éliminé du service, il porte la marque du péché, il est disqualifié. Il y a un proverbe français qui dit que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, dans 1 Timothée 6. Mais le faux Dieu peut aussi avoir un autre nom. Un commentateur a dit, « Le prophète savait que ce ministère n'était pas à lui, et encore moins ce miracle, et encore moins cette offrande. » Le prophète était conscient que Dieu seul est honoré et doit être honoré par la guérison de ce général. Et nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri. La question se pose à chacun de nous. Même en face de la rentrée maintenant, est-ce que Dieu occupe-t-il vraiment la première place? Avons-nous identifié le faux Dieu qui peut nous menacer de disqualification? Un autre commentateur a dit, « Naaman, le général, abaisse tous ses standards et il perd sa lèpre. Le serviteur veut s'élever et il récupère la lèpre du premier. » Maintenant, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Et parfois, elle s'arrête. Il y a un parallèle avec Judas, qui a trahi le Seigneur. Lui aussi, au dernier moment, il a accompagné Jésus pratiquement jusqu'à la mort, ou presque, mais pour le trahir finalement. Mais il a mal fini, parce qu'il n'a pas connu de repentance. On ne sait pas très bien ce qui se passait avec Kéhazi, parce que lépreux est exclu de la société. Il ne peut même plus vivre par les sociétés, dans la société de l'époque. Il est vraiment séparé de tout, il doit vivre à part parce que la maladie est contagieuse et n'a plus de droit au culte ni à la communauté de son pays. Mais là, quand nous lisons trois chapitres plus loin, au chapitre 8 du même livre des Rois, des deux Rois, 2 Rois 8, nous le retrouvons auprès du roi Joram qui avait succédé à l'autre où il était auparavant. Il est auprès du roi Joram et raconte au roi les exploits d'Élisée, tout ce que Dieu avait fait au travers d'Élisée. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a été guéri par le prophète encore? Est-ce qu'il se repentit? Est-ce qu'il a été rétabli? Mais en tout cas, il n'était visiblement pas lépreux, il n'aura jamais été dans la présence du roi avec la lèpre. Mais il raconte les merveilles de Dieu accomplies lors de son apprentissage avec Élisée. Donc il est témoin, il a un certain ministère positif. Il sert Dieu parce que pendant qu'il lui parle, cette femme qui était la mère avec son fils, était revenue le roi après avoir quitté le pays à cause de la famine et se trouve dans la présence du roi. Et c'est Kéhazi qui va l'identifier, qui dit « c'est elle que je vous ai parlé du miracle que le prophète avait fait ». Donc, il sert d'agent de ce que le roi a pu ensuite donner les ordres pour rétablir dans ses biens cette femme. Mais Kéhazi n'est pas devenu le successeur d'Élie, comme Élisée l'était d'Élie. Certainement que le but d'Élisée était d'en faire son successeur, mais ça, il ne le sera pas. Il ne fera pas des miracles comme ressusciter des morts ou annoncer l'avenir ou faire des miracles, des guérisons et des délivrances qui ont jalonné la route d'Élisée. Il fait partie de ceux dont l'apôtre Paul dit qu'ils sont sauvés au travers du feu, dans 1 Corinthiens 3,15. Or, il n'est jamais trop tard pour... est-ce que je suis en retard? Oui. Donc, Élisée revient. Il n'est jamais trop tard pour obtenir grâce, mais c'est vrai qu'il peut être trop tard pour un service que Dieu avait prévu pour nous. Un manque de consécration limite la bénédiction de Dieu. Et une désobéissance persistante peut nous disqualifier. Mais il ne sera jamais trop tard pour revenir à Dieu, pour le servir. Une petite histoire, peut-être que je vous ai déjà racontée, je ne sais pas toujours ce que j'ai dit et où. J'ai profité pendant de longues années de l'enseignement d'une assistante de paroisse dans l'église réformée où j'ai grandi en Suisse. Cette femme était une croyante très engagée. Elle avait une sœur missionnaire en Éthiopie et elle-même me disait un jour, quand j'avais moi 18 ans et qu'elle était dans la cinquantaine, elle m'a confessé un jour, je ne connais pas les bénédictions que Dieu avait réservées pour moi. il y a 30 ans, j'aurais dû partir en mission. C'est terrible de pouvoir dire ça. Je n'ai pas connu les bénédictions parce que j'aurais dû partir en mission, obéir à un appel que j'avais. Et m'a raconté après dans le détail tous les obstacles qu'il y avait sur le chemin. Eh bien, la plupart des gens auraient sans problème renoncé, auraient cru comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais elle dit, 30 ans plus tard, j'aurais dû partir. Et là, je me suis dit, juste, je n'étais pas converti, je me suis converti que 3 ans plus tard, mais je me suis dit, à ce moment-là, je n'aimerais pas dire ça un jour. J'aurais dû. C'est terrible, ça. J'aurais dû. Mais en même temps, je sais aussi que c'est jamais trop tard. Nous sommes et nous restons apprentis du Seigneur. Et notre responsabilité, notre but, notre objectif est de ressembler au Maître. Et je vais donc arriver à la conclusion. Ce que Dieu nous demande pour cette entrée, c'est un oui entier à sa volonté. Un oui renouvelé, peut-être. Paul a écrit aux Corinthiens, « Je vous ai écrit aussi afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en tout. » Et le contexte, c'est celui d'un pardon à accorder à un frère qui était tombé. Est-ce que nous sommes prêts à accepter des leçons agréables et aussi les autres? Soumettre toute notre vie au divin Maître Jésus-Christ, tous les domaines, que ce soit l'argent, que ce soit la colère, que les ambitions, la famille, le métier, les passions. Quelle étape nous concerne? Comme j'ai dit, il y a un parallèle entre Géasi et Judas le traître. Les deux avaient profité des années pour contempler l'œuvre de Dieu par leur maître, sans pour autant être libérés du faux Dieu Mammon, de l'argent, et ont fini par trahir leur maître, d'ailleurs là pour les mêmes raisons. Mais Géasi a pu être repêché par la grâce. Ne gâchons pas la nouvelle année d'activité devant nous. Il est bon d'être l'apprenti du Seigneur. Hop, je suis allé un peu trop vite, mais ce n'est pas grave. Il est bon d'être l'apprenti de notre Seigneur. Il nous veut à son service, un service librement consenti, par amour et par reconnaissance. Mais il nous invite aussi à une consécration entière et exclusive. Vous avez une chance de connaître les bénédictions de Dieu cette année. Et mon désir, ma prière, c'est que vous saisissiez cette chance, que Dieu puisse faire des grandes choses dans notre vie. Dites-vous, comme je le dis quelquefois aussi, cette année, et là on parle d'année d'activité, c'est la plus importante de ma vie. C'est là que je m'attends au Seigneur, comme je ne l'ai pas fait dans le passé, parce que je veux encore grandir avec lui, mieux le connaître, mieux l'aimer et mieux le servir. Amen.